Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, une finale de Ligue des Champions qui commence avec 36 minutes de retard. De longues files d'attente à cause de supporters sans billets devant le Stade de France et des forces de l'ordre débordées et aussi des intrusions, ambiance chaotique.
Sur le terrain, en revanche, c'est clair et net. Le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions pour la 14e fois, vainqueur de Liverpool 1-0 et Benzema s'impose pour le Ballon d'Or. À Madrid, on a fait la fête jusqu'au bout de la nuit. À Cannes, des baisers fougueux et des ânes superstars. Nous reviendrons sur la cérémonie marquée par une deuxième palme d'or pour le réalisateur suédois Ruben Östlund. La fête est finie à Cannes et ailleurs. C'est le moment de prendre le chemin du retour de ce week-end de l'Ascension très chargé. Partez maintenant si vous le pouvez.
Et à 8h20, notre invité ce matin à propos du tourisme, le tourisme en question avec Jean-Didier Urbain, anthropologue, spécialiste du tourisme et des mobilités.
France Inter. Le Real Madrid sacré et consacré, 14e titre donc en Ligue des Champions après sa victoire sur Liverpool 1-0. Mais le match dans un stade de France plein à craquer a débuté avec 36 minutes de retard. Trop de supporters avec de faux billets, une attente interminable au contrôle. Certains qui ont tenté d'escalader les grilles du mur d'enceinte. Des forces de l'ordre qui finissent par utiliser les gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Un supporter des Reds dénonce l'organisation.
Déjà, il y a eu beaucoup de problèmes pour accéder au stade avec les transports. Une fois arrivé sur place, l'organisation était totalement nulle. Des spectateurs qui avaient pourtant des tickets pour rentrer à l'intérieur du Stade de France ont eu du mal à voir le match. La police s'en est mêlée avec utilisation de gaz lacrymogène. Donc en gros, si vous voulez, c'était totalement chaotique cette organisation.
Liverpool demande une enquête, l'UEFA va lancer un audit. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accuse les milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets d'avoir forcé les entrées et parfois violenté les stadiers. 86 personnes ont été interpellées. Mais la victoire affirme la suprématie du Real Madrid, celle de son entraîneur Carlo Ancelotti, le seul à aligner 5 titres, tout comme Benzema qui part favori pour le Ballon d'Or. À Madrid, 60 000 supporters ont suivi la victoire au stade Bernabéu et l'ont célébré jusqu'au bout de la nuit dans le centre. À Madrid, Pierre Chaperon.
Klaxon, chant, dès le coup de sifflet final, ils étaient des milliers de supporters du Real à converger vers la place de Cibeles, lieu traditionnel pour fêter les titres du club. Pour Luis, maillot du Real sur les épaules, l'émotion est grande.
C'est une nuit magique, nous avons démontré une fois de plus qu'on était bien la meilleure équipe du monde avec ce club. Tu sais que quand tout va mal, eh bien ils vont s'en sortir, je suis vraiment heureux.
Une campagne européenne marquée par 3 remontadas contre Paris, Chelsea, Manchester City, avant de terminer, donc contre Liverpool. Un homme au centre de ce nouveau succès européen, Karim Benzema, meilleur buteur cette saison et 5e Ligue des Champions pour le Français. Pour Ruben, drapeau du club autour du cou, pas de doute, il mérite le Ballon d'Or.
Il n'y a aucun joueur cette saison qui a fait ce qu'il a produit cette année. Il a gagné le championnat, la Ligue des Champions. Pour moi, c'est le digne champion du Ballon d'Or.
Des supporters qui devraient se retrouver ce dimanche en fin d'après-midi pour communier avec les joueurs sur cette même place de Cibeles et histoire de fêter jusqu'au bout ce nouveau titre européen. Madrid, Pierre Chaperon, RFI pour France Inter.
On a peu dormi aussi à La Rochelle après la victoire historique en Champions Cup. Les rugbymen rochelais ont battu les Irlandais de Leinster qui partaient archi favoris 24-21 avec un essai dans les toutes dernières minutes. Moins d'ambiance en revanche à Roland-Garros où il n'y a plus de Français. Gilles Simon a dit adieu à la porte d'Auteuil puisque c'était sa toute dernière participation.
Le Festival de Cannes avec Sans filtre, c'est le titre français du film suédois qui a remporté hier soir la Palme d'Or.
Un film ironique et jubilatoire, critique du monde des mannequins et du luxe. Deuxième sacre pour Ruben Östlund après The Square en 2017. Le festival se retire, mais la cérémonie a été enjouée et généreuse. À l'image du palmarès, Delphine Evenou.
Virginie Efira, maîtresse de cérémonie, résume d'abord l'essentiel.
Oui, le festival se retire, mais pour les films, c'est maintenant que tout.
Après 10 jours, le président du jury, Vincent Lindon, en redemande.
Il est temps de rompre avec cette sinistre habitude que veut que le Festival de Cannes change de jury chaque année. We need 4 more years.
Un jury passionné qui a eu du mal à sélectionner. Résultat, des ex-échos comme ce double prix du jury, notamment pour Ian du polonais Jerzy Skolimowski, qui remercie Cézanne. La politique s'invite, les frères Dardenne, prix spécial pour Tori et Lokita, histoire d'exil, et leur hommage à un boulanger en grève de la faim pour empêcher l'expulsion de son apprenti l'an dernier.
Et ça, c'est formidable. Et notre film, nous le dédions à ce monsieur, à monsieur Ravaclet de Besançon.
De cette cérémonie, on retiendra aussi un clin d'œil, cliché pris sur scène par le réalisateur Tariq Saleh, meilleur scénario.
Can you all say hello to my mom?
Et Ruben Östlund, désormais double palmé, qui, comme il y a 5 ans, a tenté de faire rugir le public.
3, 2, 1.
Maintenant aux cinéphiles amateurs d'adouber ou pas les choix cannois.
Viva il cinéma et à l'année prochaine!
Vive le cinéma. À l'étranger, en Ukraine, les forces russes menacent la grande ville de Severodonetsk, pilonnée sans relâche après la conquête, selon Moscou, de la localité clé de Liman. Le gouverneur de la région de Louhansk affirme que la prochaine semaine sera très dure. La Colombie va-t-elle écrire une page de son histoire? Pour la première fois, le candidat de gauche à l'élection présidentielle, Gustavo Petro, a de bonnes chances d'être élu aux dépens du candidat conservateur. C'est un ancien guérillero, ex-maire de Bogota, mais en ce jour de premier tour, certaines de ses prises de position inquiètent toujours, en particulier sur la fin de l'exploitation pétrolière. À Medellín, Najet Beraba.
Le candidat Gustavo Petro propose la fin des contrats d'exploration pétrolière et l'interdiction de l'extraction de charbon, dont le pays est aussi un grand producteur. Lors du dernier débat télévisé de ce week-end sur la chaîne colombienne Caracol TV, il a de nouveau expliqué sa stratégie.
Je n'ai pas dit qu'on allait freiner la production de pétrole. Je n'ai pas dit qu'on allait freiner l'exportation de pétrole. Je n'ai pas dit non plus qu'on arrêterait de raffiner et d'exporter le pétrole. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de paiement des impôts sur ce pétrole à l'État. Ce que j'ai dit, c'est qu'on arrêterait de signer de nouveaux contrats d'exploration pétrolière. De cette manière, on aura une période de 12 ans, c'est la période estimée par la science, pour réussir une transition vers une économie décarbonée avec un système de production d'énergie propre.
Cette réforme préoccupe les conservateurs qui craignent que la Colombie se retrouve dans la même situation économique que le Venezuela. Gustavo Petro s'en défend.
Le Venezuela ne produit rien d'autre que du pétrole. C'est le cas extrême. Et la Colombie finira comme lui si on continue l'exploration pétrolière, pas l'inverse. Si on insiste à vendre du pétrole pour importer des aliments.
En Colombie, le secteur des hydrocarbures est crucial pour son économie car il représente un tiers de ses revenus d'exportation et un cinquième des ressources de l'État. Najet Benraba, Medellín, France Inter.
Question Eric, quelle est la tradition qui remonte à la Grèce antique, qui s'est perdue pendant quelques siècles et qui est réapparue depuis le 20e siècle, début 20e aux États-Unis?
J'ai révisé ce matin, c'est la fête des mères.
Bravo. Et ben pour la fête des mères, c'est le jour J et les petits sont prêts à faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour leur maman.
Je trouve que la fête des mères, c'est pour faire plaisir à sa mère, pour la rendre heureuse. Pour un jour de l'année, il faudrait ne pas la faire crier, ne pas l'embêter.
Débarrasser la table ou ranger notre chambre.
Manger une glace avec elle.
Faire des jeux avec elle ou des choses que ça lui fait plaisir et pour un jour de l'année qui sera exceptionnel pour elle. Et la remercier de nous avoir mis au monde.
Ces jours-là, il faut être très spécial.
Voilà, plein de bonnes intentions. Agapante, Raphaël, Paulin, Joséphine et Gabin qu'a rencontré Sylvie Duchesne de France Bleu, Gare-Lozère. Vous serez nombreux sur le pont aujourd'hui, celui de l'Ascension, avec une journée noire sur les routes dans le sens des retours. Soyez patients, surtout si vous posséder une voiture électrique car il faudra recharger. Mais les usagers restent convaincus, Lucie Rispal.
10 ans déjà que Philippe Ecal roule avec son Renault Kangoo et sa Zoé électrique. Leur autonomie est de 120 et 150 km. Pour les longs trajets, c'est habitué à ces petites astuces.
J'ai mes habitudes pour charger. Je mange à côté d'une borne. S'il y a besoin juste de biberonner un petit peu, parce que souvent il manque quelques kilomètres, je m'arrête sur une borne, je fais un peu d'administratif, je lis mes mails et puis voilà, c'est reparti.
Pour le week-end de l'Ascension, il est à 200 km de chez lui. Les prévisions noires sur les routes ne les ferait pas pour autant.
Une voiture électrique à l'arrêt consomme zéro, contrairement à une thermique. Donc voilà, les embouteillages, c'est pas du tout un souci.
D'autant plus que certains outils viennent lui faciliter la tâche.
Il y a 10 ans, il n'y avait vraiment rien, aucune borne, on chargeait qu'à la maison. Tous les jours, je découvre une nouvelle borne. Si c'est des itinéraires qu'on découvre, j'utilise l'application ChargeMap qui est interactive, renseignée par les usagers, mais qui est quand même assez précise.
Philippe Ecal peut aussi compter sur son groupe d'amis avec qui il échange parfois ces véhicules, notamment pour de longues distances. Certains modèles ont aujourd'hui 510 km d'autonomie.
Et en voiture électrique ou à essence, partez maintenant si vous pouvez, c'est le conseil de ce matin. Les premiers ralentissements sont annoncés dès 8h.
En direction des grandes villes, effectivement. Oui. C'était le journal de Christelle Rebière. Le temps.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Ah, une journée sous le soleil, Jean-Michel Goulinski.
Oui, globalement, seules quelques zones auront droit à un ciel un peu plus mitigé, comme le secteur allant du nord de la Seine à la frontière allemande, avec la possibilité d'ondées éparses. Viennent ensuite les Alpes du Sud et l'Est des Pyrénées, où par évolution diurne, des averses orageuses vont se déclencher. Ce sera en seconde partie de journée. Le vent orienté au secteur nord, sensible partout, va maintenir les températures à un niveau plus bas qu'hier, entre 14 et 18 degrés simplement de la Manche à la Loire et dans le quart nord-est, 20 à 22 sur les régions centrales, il fera 25 en moyenne dans le quart sud-ouest et 28 autour de la Méditerranée.
Jean-Michel Goulinski, Météo France.